101.5 FM.
Tendance à me plaire.
Bonsoir et bienvenue dans les tendances à me plaire de l'été. On revient ensemble sur les bons moments de cette émission. Et ce soir, pour m'accompagner, on va déranger une des chroniqueuses emblématiques de l'émission. Bonsoir Sonia.
Bonsoir tout le monde, mais bonsoir les vacanciers.
Oui, alors toi aussi t'es en vacances.
Oui.
Allez, fais-nous rêver, tu es où? Tu es sur une île paradisiaque, tu es...
Ah ben oui, tu vois, je suis dans ma maison et puis j'ai fait un petit îlot et hop, je me suis mis dessus, ça me fait une petite île.
D'accord, t'as une grosse bouée qui est au milieu, une bouée rose, flamant rose.
Une bouée flamant rose, ben oui, t'as tout compris mon Bruno, c'est ça.
Bon d'accord, ça fait rêver. Allez, ce soir, eh bien, une émission bien sympathique. On va te retrouver, Sonia, en fin d'émission avec ton sauce au chaud. Et puis on entendra aussi l'interview d'Ingrid, une réalisatrice de série. Parce qu'elle avait d'ailleurs réalisé un court-métrage dans lequel tu as fait, t'avais un grand rôle, mais un rôle muet.
Oui, ça s'appelait Fake News. Un rôle muet, mais quel rôle? Parce que oui, je jouais le rôle, on peut le dire.
Oui, tu peux.
De la morte, entre guillemets.
De la morte. Et, mais en plus, ça a été primé au Festival International Premier Plan.
Effectivement, on a eu le prix du jury, Bruno. Tout à fait. Et on était fiers de nous.
Ben oui, donc du coup, tu as eu d'autres demandes, tu vas
pour
tourner.
Pour jouer la morte, ben écoute, oui, il semblerait que j'ai, comment dire, il semblerait que j'ai du talent, mon Bruno, en morte, donc voilà. On m'a demandé...
Qu'est-ce que tu as comme souvenir de ce tournage?
Alors, je me souviens que ce qui m'a épaté, c'est de me dire que pour une seule et même séquence, il faut plusieurs façons d'orientation de la caméra pour donner et comprendre les émotions de la personne. Et j'étais assez surprise que, voilà, pour un seul plan séquence, il faille plusieurs scènes, enfin plusieurs. Et j'avais pas cette notion. Et du coup, une impression que ça demande beaucoup de temps, en fait, sur quelque chose qui paraît simple quand on regarde une série ou un film ou autre. Voilà, c'est ça que je retiens. Et très sympa, très intéressant.
Oui, puisque ça a fini à 4h du matin, je crois, ou ça avait commencé à 9h, c'est ça?
Et oui, voilà, on avait fini assez tard, hein, on était tous très fatigués, il fallait refaire, alors ça nous a fait rire, hein, certaines scènes, et du coup on était fatigués, mais voilà, c'était très sympa.
Et tout ça pour 3 minutes de film.
Exactement, 3 minutes de film pour 4 heures, effectivement, d'enregistrement et de prise et de séquences qu'il fallait reprendre, voilà.
Alors, à l'occasion de la venue de cette réalisatrice, on lui a fait écouter nos talents de comédien. Et Soso, j'avoue que tu es passé très très loin de l'Oscar.
De l'Oscar, on va dire donc, ouais, qu'est-ce que ça veut dire?
Justement, et ben, on va t'écouter. On va parler série apparemment. Alors, qui dit série dit acteur. Et donc, comme ici, nous, on a fait pas mal de séries pendant les étés. Hein, donc, on va faire une petite démo pour essayer qui nous engage.
D'accord.
Hein, la prochaine fois, qui nous engage, et puis on va essayer de se placer.
Hein. Donc là, c'est un casting, quoi. Hein.
C'est un casting, voilà, ouais. et on va essayer de voir ça. Donc, j'ai pris des émissions dans lesquelles on a joué,
ouais.
Et puis un petit peu voir comment on jouait, pour voir le niveau, en fait, de l'émission.
Oui, mais on n'était pas prêts.
On verra.
Non,
en tout cas, j'ai récupéré tous les rushs. Voilà, comme ça, vous allez pouvoir, chers invités, voir un petit peu le niveau de l'émission.
Ne nous en voulez pas, vraiment.
Voilà, c'est ça. Alors, on y va. Première fois, on a fait l'épisode de Koh-Lanta. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
C'est vrai.
C'est vrai. Mmh. Donc, voici nos acteurs studio.
Je vais chercher. Voilà, de quoi?
Oui, bah, ça. Oui, bah. C'est... Oui, bah, c'est ça, Soso. C'est la con. Cours, Bruno, cours!
Oh, oui, j'adore les bruitages.
Il a bien fait venir. Cool, Raoul. Pas obligé de.
Oh là là là.
Voilà.
C'est dramatique, hein, quand
c'est,
même.
Ouais, c'est un petit peu compliqué.
Ouais.
Alors, après, vous avez vu le niveau qui est très haut. Mmh. On s'est raccroché, peut-être, on a fait Fort Boyard. Je sais pas si vous souvenez,
effectivement.
Fort Boyard.
Vaguement.
Qu'est-ce qu'on en a fait, Boyard. Des choses? Parce que j'ai rigolo. Hein.
C'est rigolo.
Le père Foufou.
Et venez, on va visiter ton... Oh, purée. Ah bon, c'est marrant. Cette épreuve.
Voilà. Bon, ben, c'est pas terrible, terrible. Voilà. Alors, on s'est même approché des Oscars avec une série dans Alerte à Malibu. Vous vous souvenez?
Non.
Ouais, écoutez.
Pas du tout.
Bon alors, on est où là? Sur la planète Pancus? Elles sont bonnes mes cacahuètes, oh, toutes grillées comme moi.
T'as qui... dit ça Raphaël. Ah bah tiens justement, je descends, c'est Happy Hour là-bas. Vous voulez un burrito?
Happy Hour.
Oui, mais pas. Ah bah tiens justement, je descends, c'est Happy Hour. Ah bah tiens justement, je descends, c'est Happy.
Oh, yeah, yeah.
Happy Hour. Ah bah tiens justement, je descends, c'est...
Voilà.
Ouais. Hors contexte, c'est un peu bizarre.
Comment on dit? Et là, comme ça marchait bien, les États-Unis nous ont carrément demandé de jouer dans un épisode de Star Trek.
C'est pas comme ça qu'on va y arriver.
Les canards.
Les canards. Les canards. On va se faire exploser.
Allez. Une femme apparaît sur l'écran.
Non, non, c'est
une forme. Capitaine, regardez. Une forme.
Il quitte pubis.
Donc voilà, c'était un petit peu compliqué, effectivement, ouais, tous ces épisodes. Voilà.
Bah, c'est là
donc,
qu'on voit qu'on n'est pas comédien, surtout.
Ouais, je hein? pense qu'ils sont pas prêts de nous engager.
Genre, mais que les ratés aussi. Bah, les tisiers, là.
Ouais, c'est encore pire l'original.
Le salaud.
Donc on verra si vous nous engagez. Donc effectivement, alors Sonia, tu viens très très bon, très 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 bonne actrice.
Aussi, je comprends pas pourquoi j'ai pas eu le César ou l'Oscar d'ailleurs.
Bon Sonia, autrement, autre question, aimes-tu le chocolat?
Oui.
J'aime bien, il y a 30 secondes avant la réponse. Moi, je pensais que tu aurais dit tout de suite oui, oui.
Non, mais
oui,
si tu me demandes si j'aime les sushis, je te dis ah bah oui, ça c'est sûr, le chocolat, j'aime ça, mais c'est pas ma gourmandise, mais j'aime ça, oui, oui, j'aime ça.
Bon, bah, en tout cas, je te propose d'écouter Manu, parce que elle va allier le plaisir et le désir au chocolat.
Ah, sympa.
Que loin des recettes toutes faites, des leviers étonnants peuvent réveiller notre libido. Et oui, le désir sexuel, ça va, ça vient, ça je vous l'ai déjà expliqué, hein, si vous avez écouté toutes les émissions. Une question d'hormones, un état d'esprit, de fatigue, de contexte, bref, on y reviendra peut-être à l'occasion dans l'année 2020. Alors des fluctuations ordinaires qui ont pourtant tendance à nous inquiéter se régleraient au sein même des sphères sexuelles et amoureuses, entre chéri, chéri, doudou, bon voilà. Pour retrouver l'envie, il faudrait porter une petite culotte rouge, réanimer la passion des débuts à coups de soirées romantiques, se caresser et faire bouillir ses fantasmes. Mmh. Des conseils psy viennent également alimenter le tout, reposez-vous et surtout détendez-vous. Si ces recommandations ne sont pas dénuées de sens, on oublie souvent que le désir sexuel prend racine sur un terrain multifactoriel. Et là, j'y viens. Ainsi, certains leviers insoupçonnés méritent d'être explorés, ça ne coûte rien d'essayer. Je ne viendrai pas en détail, ce sera l'objet de plusieurs rubriques d'ailleurs. Alors, pour la question qui nous occupe aujourd'hui, le chocolat est-il aphrodisiaque? Monsieur Chocolat, avez-vous une idée sur cette question?
Très bonne question.
Ah, vous n'avez pas la réponse?
Non, malheureusement, non.
Eh bien, moi, je vais vous expliquer un petit peu. Donc, la réponse pourrait être oui, et puis non. Tout un débat, en fait. Voilà. Depuis sa découverte, alors, le cacao a la réputation d'être un excitant sexuel. Mais il s'agissait sans doute moins du cacao que des épices qui l'aromatisaient, comme le piment, le poivre, les clous de girofle, historiquement. Oui, parce que je fais aussi une chronique.
Tu casses une légende, là, mais...
Alors, comme pour la petite histoire, Madame de Pompadour ainsi que Casanova buvaient, paraît-il, des tasses de chocolat chaud avant d'entamer une nuit torride. Moi, je sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, donc... Alors certes, le chocolat contient plus de 300 substances actives comme le potassium, le magnésium, le fer, les antioxydants, et je ne les ferai pas tous, et plusieurs autres substances qui ont des effets antidépresseurs ou psychostimulants comme la caféine, la tyramine, la sérotonine, procurant un sentiment de satisfaction. Ah, on approche. Et il y a aussi, je ne sais pas si je vais réussir à le dire, la phényléthylamine, quant à elle, qui est appelée aussi hormone du plaisir, qui est une hormone naturelle présente dans notre cerveau, qui se retrouve aussi dans le chocolat. Vous saviez ça?
Absolument pas.
C'est un peu comme l'endorphine.
Je leur apprends plein de choses. Un peu comme la morphine qui est présente.
Ouais, l'endorphine.
Ah oui, bah oui, l'endorphine aussi. De toute façon, c'est un dérivé, tout ça. Et on a effectivement tout ça naturellement dans notre corps.
Tu vas pas me dire qu'il faut le prendre en suppositoire maintenant, quand même.
Parce que là, il y a. Tes propos n'engagent que toi.
C'est pas un médicament non plus.
On parle de chocolat savoureux.
La nuit, enfin, c'est pas possible quand même.
Oh, elle est comment elle est.
Ben oui, tu es impossible.
Tu casses le côté.
Mais non, mais elle dit que c'est un médicament, comme si c'était un médicament. Mais non, en fait.
Mais pour qu'elle ait un réel effet aphrodisiaque, il faudrait manger des quantités impressionnante de chocolat. Mmh. Voilà. La phényléthylamine entraîne la sécrétion de dopamine, une hormone responsable de la sensation de plaisir et qui contribue à l'orgasme. Voilà. Bon, bref.
Oula.
Ça va pas suffire, va falloir manger beaucoup, 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 beaucoup de chocolat. Selon les chercheurs de l'hôpital San Rafael de Milan, les femmes accros au chocolat auraient un plus gros appétit sexuel. Donc ça, c'est bien à savoir.
Pas un plus gros qu'appétit. Hein.
Elles auraient plus de désir, plus d'orgasme, mais globalement une vie intime plus épanouie. Voilà, donc faites manger du chocolat, madame.
Mais ça fait grossir le chocolat aussi.
Ouais, alors ça dépend des pays. Mais c'est différent au Royaume-Uni où, selon une enquête de juin 2007, hein, effectivement, je reconnais, elle n'est pas très très récente cette étude, mais enfin bon, j'en ai pas trouvé de plus récente. 52% des femmes britanniques assurent préférer le chocolat au sexe. Car notamment, le chocolat... Non, elle préfère le chocolat au sexe parce que le chocolat ne décevait jamais.
D'accord. Ah, c'est pas chocolat au sexe par rapport au goût.
Non,
c'est d'accord. Ah non, mais je sais pas, j'ai du mal à comprendre la chronique.
Mais c'est dingue, Bruno. Mais
je sais pas, je comprends pas.
Bon, quant à leur partenaire masculin, ils sont 87% à préférer le sexe au chocolat.
Oh, dingue.
Chocolat au sexe, c'est le sexe au chocolat. Oh. Vous avez. D'accord.
Oui,
vous voyez qu'on n'a toujours pas réglé le problème de compatibilité entre les hommes et les femmes. Mmh. Voilà. Mythe ou réalité, ouais. De quoi les deux en même temps?
Manger du... dit Caroline qui ne parle pas devant le micro, c'est puisque on ne l'entend
manger
pas.
Du sexe, manger du chocolat, manger du chocolat pendant qu'on fait, d'accord, crac. D'accord.
Bon,
c'est une idée. C'est une idée.
Manger le chocolat sur le partenaire, tu veux dire?
Mmh. Ah oui.
Bah,
oui, 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 oh là là, mais ils sont très excités les filles.
Il est que 19h.
C'est vrai qu'on a une heure avant là maintenant.
Alors, mythe ou réalité, peu importe, aujourd'hui il existe des préservatifs au goût chocolat pour mettre tout le monde d'accord. Et surtout Bruno.
Mais quelle horreur!
Alors faites-vous plaisir en croquant du chocolat, en faisant l'amour ou en commençant par l'un pour finir par l'autre, ou faire les deux en même temps, je sais pas, tu fais comme tu veux.
Il y a une différence entre le chocolat blanc et le chocolat noir sur le...
Je sais pas, faut demander à Monsieur Chocolat, est-ce qu'il y a une différence entre le chocolat blanc et le chocolat noir?
Tu pourrais jouer justement sur la dopamine,
l'envie,
hein, sur l'envie.
Pas, non.
Ou les retours au niveau du métabolisme, je sais pas, tu parles de dopamine, donc
je sais pas,
le chocolat noir va être plus stimulant pour la dopamine.
Si loin, quand
bah, je pense
même.
Que le chocolat blanc c'est que du sucre, donc du coup il doit y avoir moins
différent.
Ouais.
Ça va être toujours un effet plaisir dans le son
oui.
Au goût du chocolat.
Ça. Donc voilà,
en fait, c'est ça, c'est que ça agit surtout sur la dopamine qui est une hormone qui fait plaisir tout simplement. Donc
le matin à fond quoi.
Si tu veux.
Le chocolat.
C'est là où la dopamine est le plus stimulée, donc ça peut être intéressant.
C'est trop bon le chocolat. Et puisqu'on parle du chocolat, autant s'adresser aux professionnels car nous avons reçu un chocolatier dans l'émission.
Oui, c'est vrai.
Est-ce que tu t'en souviens?
Et oui, Olivia, je me souviens très bien. Il nous avait à tous offert un petit cadeau en chocolat et c'est vrai que ça avait été vraiment très sympa de sa part. C'est vrai.
Et bien justement, je te propose de réécouter son interview, une interview très chocolatée avec Raphaël.
C'est l'heure de l'invité.
Alors aujourd'hui, nous recevons Romain Wirtz, dirigeant de la Maison du Guerlon d'Ardoise à Angers. Nous avons voulu vous recevoir en cette période de fête de fin d'année pour nous parler de chocolat. On a commencé à en parler justement, de gourmandise bien sûr, et aussi nous révéler quelques secrets de fabrication, à commencer par ce qui fait la fierté de la société, mais aussi des Angevins. Je veux parler de ces fameux carrés de Guerlon d'Ardoise. Alors, quelle est la recette de ce chocolat, Romain? Dites-nous tout.
Donc, bonsoir, merci de m'avoir invité. Donc, le Guerlon, avant d'être un chocolat, c'est vrai que c'est l'histoire de la ville d'Angers.
C'est
quand même une ville qui a vécu pendant longtemps grâce aux mines d'ardoise. Ce produit, il a été créé vraiment pour rendre hommage à ça. Et comme vous disiez tout à l'heure, c'est un peu pas la fierté des Angevins, mais pour moi, le Guerlon leur appartient. C'est eux qui font que le Guerlon est une spécialité. Donc le Guerlon en lui-même, donc à l'intérieur, donc une nougatine, amande noisette caramélisée. Extérieur, c'est un chocolat blanc. Donc le débat du chocolat qu'on teinte avec avec une plante qui s'appelle la spiruline exactement.
D'accord.
Auquel je rajoute un tout petit peu de cassis.
C'est une algue, il me semble, la spiruline.
C'est une algue en effet. C'est une algue qui est verte à laquelle je rajoute un petit peu de cassis, une pointe de rouge pour faire le bleu.
Donc un bleu singulier en fait, hein. C'est un bleu joli, un bleu ardoise.
Voilà exactement, on l'appelle ça le bleu ardoise. Bon, les ardoises angevines n'étaient pas cette couleur-là, mais c'était une couleur qui était assez agréable à l'œil et puis qui donnait aussi envie.
Mais du coup, il n'y a aucun goût spécifique à cette couleur.
Non, absolument pas. Voilà. Alors, on travaille, c'est pas des colorants, on est vraiment que sur de la plante qui est rajoutée, mais on a la chance, la façon dont on extrait le pigment, de ne pas avoir de goût supplémentaire.
D'accord.
On voulait vraiment rester en goût en termes de nougatine et chocolat blanc.
Et pourquoi la spiruline spécifiquement? Je me permets de poser la question.
Pourquoi la spiruline? C'est simplement parce que c'est une des seules plantes qui était utilisable pour nous, pour pouvoir fabriquer notre produit. On pouvait utiliser de la lavande ou de la violette, mais alors là, par contre, on avait du goût.
Ouais, du goût, ah ouais.
Donc ça changeait forcément le goût de base. Alors, petite question au chroniqueur, tiens, selon vous, combien de guernons sont-ils produits chaque jour? Allez, une petite idée là.
Chaque jour,
ouais.
C'est en...
20 000
20 000 petits carrés?
Oui.
Voilà. Plus que ça, moi je dirais.
La réponse, Romain?
Alors, j'ai pas fait le ratio à la journée, mais on en sort environ 5 millions par an aujourd'hui.
Ah, oui. C'est énorme. Et du coup, actuellement, 33 000 en fait
Aujourd'hui, on est, voilà, c'est ça, on est à peu près à 33 000 carnons par jour sur les périodes un petit peu fortes.
C'est ce que je disais, quoi. C'était 30 000 par jour.
Mais une boîte par jour, hein, c'est une grosse boîte. Gros gourmand.
Alors, ce qu'on se rend peut-être moins compte, c'est qu'ils sont également beaucoup exportés. Alors, dans quel pays précisément?
Alors, c'est vrai que le Carnon, donc, il est vendu en Anjou. On est aussi beaucoup vendu en France. On a plus de 1200 points de vente qui redistribuent la marque Carnon. Et à côté de ça, on est beaucoup distribué au Japon, en Asie, en Corée, États-Unis, un petit peu partout en Europe aussi.
Ouais, quand même.
Mais le plus gros marché reste le Japon, où on a la chance d'avoir une Anjine qui est installée sur place depuis 2007 et qui a fait un très gros travail pour nous et qui est aujourd'hui imposé le Carnon dans le top 10 des ventes de chocolat au Japon.
Waouh, énorme.
C'est une sacrée fierté, ouais.
Ouais.
Bah, très fier que ce soit quelqu'un d'ici, on va dire, oui, qui soit parti là-bas. Et en 2007, quand elle a commencé, je veux dire qu'on n'y croyait peut-être pas non plus. Quand on l'a vu partir, on s'est dit, est-ce que ça va marcher? Et on a vu la chose grossir petit à petit.
Alors, le Carnon, c'est bien sûr votre produit best-seller, mais vous vendez également d'autres chocolats, d'autres gammes de chocolats. Alors, pouvez-vous nous en citer quelques-uns?
Oui, alors c'est vrai qu'on est toujours rattaché au Carnon d'Ardoise comme étant notre produit phare, mais c'est vrai qu'à côté, donc, on fait aussi des macarons. Alors, bien sûr, nos macarons, c'est macarons Cointreau ou macarons au Carnon. On n'est pas parti dans 10 000 parfums. À côté, on fait beaucoup de bonbons de chocolat, plus de 40 bonbons de chocolat différents, beaucoup de moulage aussi, ce que je vous ai ramené pour vous.
D'accord, alors c'est vrai qu'on plaisir. En a effectivement, on a la chance d'en avoir en studio, alors on peut les décrire.
Il y a un Père Noël.
Un Père Noël.
Donc là, voilà, c'est, cette année, c'est la petite collection qui reprend un petit peu les personnages de Noël, Père Noël, Mère Noël, Bonhomme de Neige, et aussi un petit sapin.
Et puis une belle pyramide de chocolat.
Exactement.
Avec des boules, là.
Avec des boules, effectivement. Donc, qui rappelle vraiment les boules qu'on accroche au sapin de Noël. Alors, on peut également citer les chaussures à talons qu'on a trouvées enfin, l'année dernière, par exemple. Les petits cactus qui sont aussi pour moi adorables. Alors, vous fourmillez d'idées. Alors, vous proposez toujours des créations très originales. Alors, comment trouvez-vous de nouvelles idées et comment sont-elles réalisées?
Alors, les idées, elles viennent de ma compagne, Angela, qui passe beaucoup de temps à regarder toutes les tendances, que ce soit dans la mode, même dans d'autres domaines.
Ah oui.
et qui petit à petit échange avec les chocolatières, avec les équipes de vente, et qui va trouver, on va dire, voilà, les coloris, le design, comment imaginer le produit, et puis le travailler sur le long terme, donc voir les packagings. C'est vraiment un travail sur le fond qui prend du temps. On essaye d'avoir toujours 6 à 8 mois d'avance sur nos collections et de se renouveler tous les ans, ce qui lui demande un gros travail.
Ah oui, on s'imagine pas. Donc elle peut s'inspirer aussi du monde de la mode aussi.
Exactement, bah, quand on a eu une collection l'année dernière, ou il y a 2 ans pour Pâques, qui était sur le thème végétal, et on était en plein dans les thèmes de mode qui sortaient au même moment.
Donc forcément, ça touche le public.
Vous allez au salon du chocolat aussi ou...
On fait le salon du chocolat à Paris. Ça fait maintenant 12 ans qu'on fait le salon du chocolat à Paris. C'est un bel événement pour nous.
Parce que des fois, il y a des défilés de mode, justement, avec des chocolats.
En effet, exactement. On ne l'a jamais fait. On nous le propose chaque année, mais on sait que c'est beaucoup de travail. On est déjà un petit peu débordé. Mm-hmm. Mais c'est vrai que l'idée de faire une jolie robe de mariée avec des carnons ou une robe blanche avec des carnons bleus, on y pense. Peut-être un jour, on s'y mettra.
D'accord.
Donc, si ça demande du temps, du coup, il y a des choses qui sont préparées déjà pour l'année prochaine, j'imagine.
Là, on a déjà prévu nos collections Saint-Valentin et Pâques est quasiment bouclée aussi. Donc, je vous en dirai pas plus sur ces collections.
Mince. On va en savoir un petit peu plus.
On devra avoir des belles choses. Ça, c'est
donc,
sûr.
Donc, il n'y a pas que vous deux dans l'entreprise. Combien de salariés employez-vous et quels sont les différents corps de métier de la maison du Carnon?
Ok, donc en temps normal, on est 18 personnes. L'hiver, on est plus près d'être une trentaine.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on s'imagine une chocolaterie où il n'y a que des chocolatiers, mais c'est vrai qu'il y a aussi des vendeurs en boutique, des chocolatiers. Mmh. On a des personnes à la logistique, on a des préparateurs de commandes, on a des personnes qui s'occupent de gérer le web, la comptabilité, le secrétariat, le téléphone, le commercial.
Est-ce que vous avez aussi des goûteurs?
Les goûteurs, c'est nous. Mais je prends, voilà, je comprends. Je vois ce que vous voulez.
Je crois que Soso a l'envie de se placer, ouais.
C'est ça. Derrière tout ça.
Ouais, donc c'est une véritable entreprise. Hein,
c'est vraiment. Ça, c'est une entreprise à part entière avec tous ses rouages.
Alors, où sont réalisés les différents produits que vous réalisez?
Donc, les carnons ont été déménagés à Saint-Léger-des-Bois.
Mm-hmm.
parce qu'on avait besoin de place. Rue Delis, ça devenait très compliqué de faire des palettes sur place. Et autrement, Rue Delis, on a gardé toute la production des chocolats, des macarons, des moulages.
D'accord. Et alors, vous, Romain, comment vous en êtes arrivé à diriger cette société? Parce qu'on l'imagine, vous n'étiez pas là dès le début en 1946.
Non, je
alors,
sais.
Comment que... vous en êtes arrivé là?
Alors, il ne fait pas son âge. Hein.
Je ne fais pas mon âge, exactement. Non, c'est vraiment par le plus grand des hasards. Moi, je viens, j'ai arrêté l'école très tôt. J'ai commencé tout de suite dans l'entrepreneuriat dès mes 18 ans, d'abord dans le textile, après dans l'audiovisuel pendant 2 ans. Et puis mon père, qui venait de reprendre la petite marquise, m'a dit: est-ce que tu veux pas me rejoindre pour t'occuper d'abord du commercial? Donc j'ai débarqué un mois après le rachat en 2007. Pour faire de la prospection des salons.
Et puis c'est en vous voyant diriger un projet autour de la vidéo.
Exactement, hein, c'est, voilà, il m'a vu piloter un projet audiovisuel avec plus de 300 bénévoles et il s'est dit il doit pouvoir le faire. Il doit pouvoir y arriver. Mais il m'a fallu quasiment une dizaine d'années pour comprendre le métier en totalité.
Alors moi j'ai une question d'un auditeur très assidu qui demande: dans quelle ville du Japon est-ce qu'on peut aller acheter les carnons d'ardoise?
Vous en trouverez à Tokyo. Là, je vais faire plus simple. Il y a environ 200 points de vente au Japon qui le distribuent. Donc on est distribué. Est-ce que j'ai le droit de citer les endroits où on est distribué?
Ah oui.
Ouais,
oui,
donc
oui,
c'est
oui.
Dans les groupes qui sont Isetan, Takashimaya, Felissimo, pour citer les plus gros, qui sont un peu des styles de boutique, un peu comme des Monoprix ou des Galeries Lafayette.
D'accord. On espère que notre auditeur à l'information qu'il lui fallait.
Et autrement, il peut commander par internet. On livre jusque là-bas.
Et vous nous expliquiez que cette maison, donc fondée en 46, on l'a dit, a connu plusieurs vies. Alors racontez-nous un peu l'histoire de cette maison.
Alors la petite marquise, en tout début, donc ça a été une pâtisserie, salon de thé, traiteur, plateau repas. Il y a eu beaucoup de métiers différents. C'était vraiment très très large. Et c'est vrai que nous, au fur et à mesure, on a un petit peu réduit. On s'est recentré sur ce qui était le plus important pour nous. Mais c'est vrai que c'est une entreprise qui a eu de multiples vies. Et puis, on va dire qui a évolué aussi avec son temps. Voilà, on a eu beaucoup de salons de thé qui étaient peut-être très à la mode il y a très longtemps. C'est vrai que voilà,
un peu moins maintenant.
Puis je vois maintenant aujourd'hui la part web a pris une part hyper importante dans le développement de l'entreprise. On le voit tous les jours. On essaye d'évoluer avec notre temps. C'est important aujourd'hui, je pense.
Donc d'où l'importance d'être sur les réseaux sociaux. Hein,
voilà, les réseaux sociaux, ça a été en 2007 quand on est arrivé, la priorité c'était de lancer un site internet. Parce qu'il fallait qu'on touche le plus de monde possible. Et puis les réseaux sociaux sont arrivés en même temps que Angela en 2012, où elle a mis en place.
Une très bonne idée, hein, voilà, parce qu'effectivement, ça passe beaucoup par l'image.
Exactement.
Votre produit préféré, Romain, vous ne l'avez pas dit. C'est quoi votre petit?
Non, je ne l'ai pas dit. Il y en a plein. Alors moi, je suis très chocolat au lait. Je vais me faire engueuler par plein de chocolatiers qui disent chocolat noir. Mais non, ce serait plutôt mes petits bonbons de chocolat. Voilà, c'est des petits bonbons de chocolat. On a des choses au caramel, en praliné, à la feuilletine. Voilà, je pourrais rester des heures devant la vitrine à les manger.
Mais le Kernon, c'est spécifique à vous? C'est déposé?
Vraiment, le Kernon, donc, c'est vraiment une marque déposée qui a été créée par notre entreprise en 46. D'accord. Et qui donc appartient à la petite marquise. Donc on est le seul à le produire et on est le seul à le distribuer.
Donc il n'y a aucun chocolatier en dehors sur Angers qui
le distribue pour nous, oui, mais qui peut en produire, non.
D'accord.
Personne ne peut en faire.
Voilà, donc il y a quelques copies qui se baladent, mais c'est vrai qu'on est vraiment, on a une force commerciale qui nous permet d'être vraiment présents, donc, vraiment partout.
En grande surface, c'est vous aussi?
C'est nous aussi.
Et comment on reconnaît les copies du coup?
Simplement.
Sont roses.
Peut-être. Non, vous le verrez à l'œil que c'est pas le Kernon, il a une forme, et au goût c'est pas pareil. Notre nougatine, elle est quand même compliquée à copier. C'est une recette bien particulière. Vous retrouverez pas une nougatine comme ça partout.
Effectivement. Alors dernière question. Alors on aimerait savoir ce qui vous passionne tant dans votre métier, dans votre quotidien, Romain.
Vous faites du chocolat.
J'ai lu cette question-là. Je me suis demandé vraiment ce qui me passionnait le plus. C'est vrai que le fait de créer, de réfléchir, de trouver de nouvelles idées, c'est hyper intéressant. Mais je crois que pour moi aujourd'hui le plus important, c'est de me dire que le marque Kernon d'Ardoise, elle est là depuis plus de 50 ans. Moi, je suis qu'un passeur de relais. Je sais que cette entreprise va continuer après moi. Et je trouve qu'aujourd'hui, moi, ce qui me fait avancer, c'est de me dire que la marque Kernon, elle va continuer après nous, qu'on est des passeurs de relais et qu'on doit tout faire pour que cette entreprise, elle grandisse encore, pour qu'on puisse la transmettre plus tard. Ce sera peut-être à ma fille ou à quelqu'un d'autre de l'entreprise. Voilà, de lui laisser quelque chose d'un peu plus costaud, d'un peu plus grand, et puis que les Angevins continuent d'être satisfaits de leurs produits et en soient fiers.
C'est le cas, je pense. Mmh. Hein, en tout cas, moi, je suis très satisfait de ce chocolat que j'adore.
On va le manger tout à l'heure, ils nous en ont amené.
En tout cas, merci pour
les cadeaux. Avec les cadeaux, je dois être le premier, je dois gagner votre concours.
Ouais, c'est ça. Ah, on saura ça le 31.
Eh bien, merci Romain. Donc, on retrouve la maison du Guermont d'Ardoise, notamment au 22 rue des Lys, mais aussi sur le marché de Noël, en ligne, mais également sur les réseaux sociaux, alors où l'on peut découvrir tout un panel de vos créations. Merci beaucoup pour ce moment, Romain, et bonne continuation à vous.
C'était donc l'invité du jour. Allez, vous êtes toujours dans Tendance à me plaire, et on est avec une des chroniqueuses de l'émission, l'animatrice du Soso Show, qui n'a pas résisté pendant l'interview et que je suis sûr est en train de manger du chocolat, c'est ça?
Des petits M&M's.
Oh là là, ben non, vaut mieux des chocolats angevins, voyons.
Oui,
des guernons.
Oui.
Allez, on poursuit maintenant avec Karine et une chronique qui est un petit peu tirée par les cheveux, vous allez voir.
Elle râle.
Non, je râle pas. Alors, une histoire de cheveux, c'est le nom que j'ai donné à ma chronique.
C'est bien.
Ouais,
on a le titre déjà.
C'est bon, c'est fini. Merci à toi, Bruno. Les nouvelles technologies. Alors, avoir mal aux cheveux, tirer par les cheveux, se faire des cheveux blancs, avoir un cheveu sur la langue, vous connaissez tous ces expressions interminables du cheveu.
Oui.
Non, je ne tombe pas, Raphaël. Alors, je vous incite à explorer le monde autour du cheveu. La joie des parents qui ont une ou plusieurs filles. Et pour qui c'est un véritable calvaire de passer par la case coiffure. Vous savez, entre les cours d'équitation ou de danse classique, où chaque activité demande un type de coiffure différent avec un résultat qui doit être irréprochable. C'est ce que demandent
les associations.
Associations qui font ça. Donc la coiffure n'est pas innée pour tout le monde. C'est pourquoi, afin d'éviter l'arrachage des crinières, les hurlements de sa fille, les douleurs infligées pour l'enfant, des coiffeurs super-héros ont eu l'idée du siècle pour venir à la rescousse des parents. J'ai nommé l'atelier de coiffure en duo père-fille ou père-mère. L'atelier a pour objectif de faire des prouesses et de devenir un véritable professionnel. Plus de crainte, efficacité, résultats approuvés. La promesse d'une tranquillité retrouvée pour vos tympans et des cheveux moins torturés pour vos enfants. À domicile ou en salon, vous apprendrez des gestes simples qui vous amèneront à vivre un véritable moment de partage avec vos bambins. Ça, c'est le côté cool de l'histoire. Mais qu'en est-il du combat qui doit être mené quand ces créatures venues d'un autre monde envahissent, infestent, dévastent, même attaquent les petites têtes qui passent leur journée à l'école? Il a le regard noir, perçant. Il ne vous lâche pas, l'abominable monstre aux yeux globuleux. La langue verte pendante, des joues creuses, des pommettes pâles, des pattes bleues avec des griffes crochues, un abdomen cabossé, des coudes biscornus et des oreilles affreusement pointues.
C'est
vous
du Joker.
Là, vous n'avez plus le choix, l'affrontement ne peut être évité, il faut déclarer la guerre. T'as trouvé que c'était ?
Je trouve que la drogue, c'est mal, en tout cas.
C'est bien, Jérémy.
C'est le coup.
Il ne faut pas croire, pour ces petites bêtes, en fait, c'est très physique de passer de tête en tête et ça demande une énergie colossale de venir vous contrarier chaque année à la même époque. Et où, et oui, ce n'est pas pendant la période scolaire que les peaux prolifèrent, mais bien pendant les vacances d'été. C'est pour ça que chaque fois, au mois de septembre, c'est la galère.
Ah oui, c'est plutôt dans les fortes chaleurs, en fait.
Exactement.
Plutôt chaleur que ça prolifère.
Alors, pour mener à terme son combat, et être sûr de le gagner sans stress et n'y perdre de temps, faites confiance au centre Antipoux qui prolifère partout en France aussi vite que la transmission de ces derniers d'ailleurs. Vous n'avez qu'à déposer votre enfant dans un de ces centres, tout comme y déposer son animal de compagnie bien-aimé. Comme chez Toiletteur.
Oh, quelle image.
C'est l'image que je m'en suis fait la première fois que j'en ai rencontré. Il y en a un sur Angers, je ne sais pas si vous avez fait attention. Ça s'appelle Kidspoux. C'est le premier institut national de traitement des poux, dont un sur Angers, donc comme je vous l'ai dit, place de la Visitation. Et en fait, il en existe 26 de cette franchise, mais ce sont loin d'être les seuls sur le marché. Donc en fait, c'est moins glamour qu'un salon de coiffure, mais ne vous y trompez pas. L'entrée n'est pas forcément interdite si on n'a pas de combinaison quand on y va. Donc en fait, la naissance de ce centre en France, elle a commencé par la désolation d'une mère qui a fait la découverte de ces centres-là aux États-Unis. En Espagne, qui éradique ces petites bêtes. Et donc en fait, l'enseigne met en avant l'utilisation de produits naturels pendant les étapes du traitement, donc aspirateur, lotion maison, mèche passée à la loupe et contrôle de l'infestation après 7 jours. Les tarifs diffèrent entre 33 et 93 euros en fonction de la longueur du cheveu.
Ça,
et au final, en une séance, c'est fait et tranquille.
D'accord.
Pourquoi pas? Et apparemment, il y en a de plus en plus, quoi.
Il faut les tarifs, il faut les écoles.
Il faut
Donc voilà, votre enfant aura de quoi passer le temps agréablement, parce qu'il a des jeux et des tablettes avec lui, et vous de prendre du temps. Donc, alors, mettre des poux dans la tête de ses enfants, ça a plutôt du bon, et en plus, vous contribuez à l'économie.
Voilà. Très bien.
Donc les 130 pouces, c'est, ça prolifère vraiment partout.
Ah oui. Moi j'aurais peur d'y aller.
Place de la visitation, ouais.
Non mais j'aurais peur d'y aller parce que. Ouais. Mais non mais je pourrais attraper. J'ai pas de cheveux, mais ça permettrait d'avoir des. Non mais si tu vas dans ces centres là, tu chopes des poux parce que forcément.
C'est ce que tu penses, mais je sais pas. Je pense que c'est bien.
Il y a des sas.
Je sais pas. Non, je pense pas quand tu passes devant.
Alors tu déposes le gamin puis tu te casses.
Exactement.
Ah bah super.
Sinon, des petites huiles essentielles de lavande derrière l'oreille.
Ça marche pas. Ça marche même pas. Les lotions maison, ça ne marche pas du tout. C'est une vraie catastrophe. Donc là, par contre, c'est que d'émotion.
Blanc, comme tout
non,
le
ça
monde.
Marche pas. Ça ne
ah
marche
bon
pas. Mais non, ça
bon, bah,
marche
faut
pas.
Raser, alors, on rase.
Sinon, tu vas pas à la pharmacie, tu passes pas la soirée.
L'invité a dit oui pour raser.
Mais faut les inviter pour comprendre le concept. Enfin, le concept, on a compris, mais voilà. Donc voilà. Ça s'appelle le bon pique-nique. Ça vient de Saumur, donc c'est vraiment local. Donc ça vous propose de prendre ventre-temps et d'aller à la rencontre d'artisans et cuisiniers qui sont sélectionnés en amont. Donc le principe, il est simple. En un clic, vous trouvez l'artisan qui sera sur votre itinéraire. Vous découvrez ses produits, faites votre réservation la veille en ligne et vous retirez directement le panier chez le commerçant le lendemain. En fonction de là où vous allez. Donc vous découvrez dans un pique-nique les saveurs et le savoir-faire des régions que vous traversez, composées de spécialités locales que vous ne trouvez que chez les artisans. En plus de vous régaler, vous soutenez les commerces traditionnels, l'économie de proximité et les circuits courts.
Et on mange avec les artisans ou pas du tout?
Tu peux manger avec eux, mais le but c'est vraiment de pique-niquer.
D'accord.
Donc
tu prends ton pique-nique, voilà.
Et tu te casses.
C'était donc Karine dans Tendance à me plaire. Et en début d'émission, on a parlé du court-métrage Fake News dans lequel tu as tourné, Sonia. Mm-hmm. Et bien justement, je te propose d'écouter l'interview de la réalisatrice Ingrid. D'accord.
C'est l'heure de l'invité.
Alors aujourd'hui, nous recevons Ingrid Franqui, créatrice et réalisatrice de la web-série Prisoner, et Willy Kazazian, comédien dans cette même série. Alors vous venez nous parler de ce projet né il y a 3 ans. Racontez-nous comment vous est venue cette idée, Ingrid, que je ne vois pas, voilà.
Cachée par le micro.
D'où est venue l'idée?
C'est ça.
Yes.
D'où est venue l'idée? En fait, j'avais envie de développer un projet qui soit un peu plus à long terme que ce soit un court-métrage, par exemple, ou un long-métrage même. Et j'avais déjà commencé à travailler avec un groupe de cinéastes. Et on faisait déjà une petite série. Et ça m'avait, voilà, j'avais envie de faire un projet personnel sous format série, en fait.
D'accord, donc vous aviez envie de parler de liberté, alors justement c'est le thème en fait de cette série, racontez-nous le synopsis.
On suit 5 personnages qui sont justement traumatisés par quelque chose et qui ont envie de s'émanciper de ce traumatisme et de vivre librement leur vie d'adulte.
D'accord. En
fait. Voilà, donc c'est un peu ça, on suit 5 personnages dans leur quotidien et on comprend petit à petit ce qui a pu les traumatiser, enfants ou adolescents, voilà, et qu'ils ont vraiment envie de sortir de ça pour vivre libre.
D'accord, donc Ingrid, vous avez notamment réalisé, on en parlait tout à l'heure, donc plusieurs courts-métrages dont certains ont reçu des prix, d'autres diffusés en festivals internationaux, travaillé pour une émission télé, vous avez travaillé également sur une série. Alors qu'est-ce qui vous plaît justement dans cette spécialité, le tournage d'une série? Qu'est-ce que, contrairement à une fiction par exemple, un court-métrage ou un moyen-métrage, qu'est-ce qui vous plaît dans cette spécialité?
En fait ça reste une fiction, même si de temps en temps ça s'approche un peu du docu-fiction, parce que je me sers du réel pour mettre dans la fiction. En fait, on peut tourner avec des acteurs dans une vraie manifestation par exemple, mais on y met quand même de la fiction, donc ça reste un peu un docu-fiction. Mais ce que j'aime dans la série, c'est justement avoir le temps de développer les personnages. Ça, c'est vraiment...
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est vraiment ça. Et de donner envie aux spectateurs de les suivre, en fait, à travers plusieurs épisodes, quoi.
Vous en suivez, vous, personnellement, aussi, des séries?
Donc, ah, j'adore les séries.
Ça vous inspire?
Ah oui, j'adore les séries. Je trouve... Bon, ça a éclaté, là, depuis...
C'est très à la mode, hein.
Oui, c'est très à la mode. Après, ça existe depuis un certain temps, parce que nous avons eu Alerte à Malibu, en exemple. Mais bon, il y avait quand même déjà...
L'homme du Picardie.
Mais voilà, après, oui.
Les meilleures séries, c'est celles... pour lesquels le scénariste connaît la fin. Ah, vous connaissiez déjà les tenants et aboutissants de la série.
Alors, je ne sais pas si c'est les meilleures séries, mais en tout cas, l'idée, c'est quand même de savoir à peu près où on va, quoi.
Ouais, c'est bien déjà. Ouais, c'est bien.
Et là, vous en êtes où justement dans le tournage de cette série? Dans quelle phase?
Alors, en fait, le projet, moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dessus. Mm-hmm. En termes d'écriture, on a déjà commencé à tourner. On fait par phase, parce que c'est un projet autoproduit. Donc, du coup, dès qu'on peut, qu'on est disponible, qu'on a un petit peu d'argent, ben, on tourne des périodes de 3 à 7 jours. Et mm-hmm. cet été, on a tourné 3 semaines sur Angers. Et là, on est encore en tournage en ce moment. Et je pense encore pendant 6 mois. Et après, j'attaque au fur et à mesure la post-production, c'est-à-dire le montage, en espérant que l'année prochaine, on puisse sortir le projet.
Donc c'est une série qu'on pourra avoir sur quel support ?
Alors c'est encore c'est un peu compliqué la diffusion, parce que là ce que j'aimerais dans l'idéal, c'est déjà faire des festivals. Mm-hmm. Comme ça nous fait connaître un petit peu, du pas mal aussi du côté professionnel, parce que les festivals, bien sûr il y a public qui vient pour voir mais il y a aussi beaucoup de professionnels, il y a des producteurs, des diffuseurs, il y a des gens qui peuvent nous aider aussi après à diffuser le projet, quoi.
Donc des festivals spécialisés dans la série,
dans la web série, la série, oui, tout à fait.
Alors Willy, quant à vous, donc vous jouez dans cette série le rôle d'Antoine, un comédien des années 90 qui joue dans une sitcom Belle Famille, où vous interprétez Jacques, le père de famille. C'est bon là jusqu'ici ?
C'est ça.
Voilà. Ouais. Sinon tout va bien, c'est bon, hein. Pour vous, vous savez encore qui vous êtes.
Schizophrène, mais tout va bien. Ouais.
Donc blague à part, comment vous êtes retrouvé dans cette aventure et ce projet ? Qu'est-ce qui vous a attiré ?
Alors quand je m'y suis retrouvé, on va dire pas par hasard mais presque, en fait c'est vraiment par autre chose, parce que je suis sur les Folies Angevines et je m'occupais du pôle musique, et donc j'avais accès à la messagerie, et un jour il y a un mail de Noan, donc qui est l'assistante réelle de Ingrid, qui avait envoyé donc un mail à Kevin qui gère les Folies Angevines. Mm-hmm. Pour proposer finalement un peu le casting aux personnes qui prenaient des cours de théâtre. Voilà, et comme moi j'ai vu ça passer dans la messagerie, je me suis dit, après tout, pourquoi pas essayer, quoi.
Coup de bol. Et là, donc, vous êtes présenté au casting quand même, hein. Vous
ah oui, j'y suis allé, ouais.
On a fait 6 mois de casting quand même pour
d'accord.
Faire 3 semaines d'Angers, là, sur 3 semaines de tournage sur Angers.
Au micro, Ingrid. Ouais.
Ah, pardon, je répète. On a fait à peu près 6 mois de casting pour mm-hmm. trouver tous les personnages pour cet été. Parce que la particularité, c'était de trouver des enfants qui ressemblent à des adultes,
ah oui.
De trouver une famille qui se ressemble un tout petit peu quand même par rapport au sitcom, même s'ils se ressemblent pas, voilà, mais il fallait que ça matche un peu quand même, des enfants, des adultes. Donc on a mis 6 mois pour trouver tout le monde.
Alors on peut voir des extraits sur la page Facebook de la série, hein,
ouais,
qui
carrément.
Existe. On mettra le lien sur notre page Facebook.
Des extraits behind the scene, hein. C'est pas des extraits de série encore, c'est pas les images de la série.
D'accord, bon, ça donne un
making of. Ah oui, mais carrément, ça donne. Ouais, tout à fait.
On voit justement du coup le décor, les costumes. Comment vous avez appréhendé le personnage Willy et le tournage ? Comment vous avez travaillé ce personnage ?
Alors, c'est. En fait, déjà, j'ai découvert vraiment le personnage que quand vraiment j'ai su que j'étais à peu près pris.
Ouais.
Donc reçu le scénario, on a eu, alors il y avait Noan déjà qui nous a réquisitionné un peu plus tôt avant le tournage pour nous briefer un peu sur la manière de jouer, parce que donc le jeu sitcom, il y avait quand même des instructions, c'est de prendre son temps et de bien va dire découper.
Ouais, c'est particulier en plus de jouer une sitcom pour le coup, de jouer.
Bon, le coup, moi c'est aussi ça qui m'a intéressé, parce que bon, moi je suis pas non plus un comédien professionnel, mais bon, je fais un peu de théâtre. Et je voulais m'essayer au moins à ça. Je me suis dit, bon, tiens, il y a un tournage intéressant sur Angers, un gros tournage. Si déjà ça m'intéresse. Et puis là, ça donnait une petite challenge en plus, apprendre à jouer sitcom. Donc, moi, c'est vrai qu'à mon niveau, il y a des moments où je trouvais que c'était pas forcément toujours évident de prendre son temps, donc de respecter ses codes du jeu sitcom, et en même temps de faire passer l'intention juste. Bon, après voilà. Donc, j'ai essayé surtout de travailler sur ça, de façon à ce que ce soit crédible. Dans, on va dire dans le registre mal joué entre guillemets de sitcom.
On peut le dire.
Voilà.
Alors ça me rend,
c'est dit avec délicatesse, ouais. Pour vexer personne.
En voyant quelques images, j'ai pensé au film The Truman Show où on voit des comédiens jouer un rôle, en fait. Ça vous a inspiré ce film notamment ou pas trop?
Non, j'ai pas pensé à ça. Non. En fait, la partie sitcom, c'était surtout pour revisiter un peu le fait qu'il y a un des personnages qui a joué enfant dans ce sitcom. sitcom du coup, qui était une enfant star un peu de cette période et qui a beaucoup souffert de ça en fait. Parce qu'il y a beaucoup, il faut savoir que les enfants quand ils jouent, c'est pas forcément, enfin comment dire, ils peuvent être poussés par les parents. Voilà, il y a quand même des choses qui sont un peu compliquées à, pour eux de vivre. Mm-hmm. Ils sont très jeunes, donc du coup c'était ça, c'était un peu justement le côté prisonnier, c'est-à-dire prisonnier d'une enfance assez particulière. Et il y a une mère qui la pousse à, vraiment à fond dans ce sens-là, alors qu'elle, elle n'a pas spécialement envie de jouer dans un sitcom, en fait, ou de jouer de manière générale, quoi.
D'accord, voilà. C'est intéressant.
Donc, en fait, je suis surtout inspirée de la vie de Judy Garland. Mmh. C'est-à-dire la vie qui, d'une enfant qui a été poussée par sa mère, qui lui donnait des pilules pour qu'elle garde le rythme, quoi. C'était plutôt ça.
D'accord.
C'est horrible.
C'est horrible. C'est horrible. Non, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est ça, ouais.
Il y a un film qui sort bientôt sur elle aussi.
Sur Judy Garland.
Américain. Avec celle qui faisait Bridget Jones, je ne sais plus. René Zellweger.
Ah oui.
Alors, le tournage a eu lieu sur Angers, dans les studios Bodinier, c'est
notamment,
bien ça ?
Notamment, ouais. Pas notamment. Que, mais on nous a prêté... En fait, on a eu beaucoup de chance, parce que comme c'est un projet autoproduit, on a beaucoup, beaucoup de partenaires. Quand je dis partenaire, c'est vraiment... Ça peut être juste la personne qui nous prête des lieux, une voiture, ça peut être des costumes qui viennent gratuitement, parce qu'en fait, il faut quand même savoir qu'on a eu une équipe gratuite qui est venu bénévolement, autant technicien que acteur que figurant, que pendant 3 semaines. Mmh. Plus, là, on parle que d'Angers, mais moi, ça fait 2 ans et demi que je tourne et que du coup, tous ces gens me suivent en fait. Donc,
dans toute la France et pas que.
Il y a la France, on a tourné en Pologne.
Ah oui.
Voilà, et on n'a pas. J'aimerais encore tourner dans un autre pays. Je sais pas encore si ça va être possible techniquement, mais en tout cas, voilà, c'est un projet de longue haleine. Et donc déjà, je remercie vraiment les gens qui suivent sur ce projet parce que c'est. C'est assez ambitieux, quoi.
Comment ça se finance, ça ? Si vous avez des...
Je travaille nuit et jour. Non, je mets vraiment de l'argent de côté. Dès que je peux, je tourne.
Il n'y a pas des subventions ? Il n'y a pas d'aide ?
C'est compliqué parce que c'est un projet à long terme. Et que pour qu'un producteur se mette sur un projet comme ça, c'est compliqué. Déjà parce que ce n'est pas rentable, en fait. Mm-hmm. Déjà. Mm. Donc, moi, je m'étais dit, j'avais vraiment envie de faire ce projet. Je me suis dit, bon, je vais le faire. Après, je ne ferai pas 50 projets comme ça dans ma vie parce que ça prend un temps fou. Hein, ouais. Il faut financer, il faut trouver les gens, il faut les chaque personne et chaque partenaire, il faut les motiver,
les coacher aussi,
les coacher, il faut les préparer, parce qu'on a eu 6 mois de casting, on a eu 2 mois de préparation en termes d'acting, on va dire, plus la recherche de costumes, la recherche de décors, la recherche de partenaires, la recherche de régie, ce qu'on appelle régie, c'est la nourriture, c'est voilà,
logistique, enfin,
la logistique, ouais, tout à fait.
Et alors, elle est comment, Ingrid, en tournage?
Oui, vas-y. Non, mais elle est là, je peux pas le dire, du coup. Non, non, non. Vraiment, en toute sincérité, ça a été vraiment, moi, une super expérience.
Ouais.
Parce que, vraiment, toute l'équipe, tout le monde était très, très sympa, très accueillant. Moi-même, je suis allé voir un peu tout le monde parce que, je dis, voilà, chacun ici a joué un rôle, ne serait-ce que la nourriture, maquilleuse, etc.
Tout à fait.
Et non, non, sur plateau, en tout cas, vraiment très bonne ambiance, très bienveillante. On a discuté un petit peu rapidement, mais
oui, ça doit être aussi intimidant en fait, finalement, de voir tout l'envers du décor.
Alors oui, un peu, et en même temps, moi j'avais déjà fait un peu des tournages, mais bon, qui avaient rien à voir avec de la fiction. Je faisais des caméras cachées avec Greg Guillotin,
ouais.
Et donc c'est totalement différent. Et c'est pour ça qu'on avait fait juste une fiction ensemble il y a 3 ans. Et ça m'avait donné un peu le goût. Donc c'est vrai que maintenant, comme il est beaucoup plus en télé, on a beaucoup moins le temps de faire des choses ensemble. Et je me suis dit, je vais essayer de mettre sur la fiction. Donc sur Angers, il y a quelques petits projets qui se font. Et donc voilà, quand je peux, j'essaye de
ouais, ça vous donne envie d'avoir d'autres expériences.
Ouais, ouais,
et
carrément.
Et d'écrire,
ouais.
Il me semble, un petit peu. Hein.
Ouais. Alors d'écrire, je sais pas. Non, non, pour l'instant, je prends des cours, on va dire, d'écriture avec Cours 49, production.
Ouais, une association.
Ouais, qui est angevine.
Du cinéma.
Ouais, ouais.
Ouais.
Donc ouais, je m'essaye un peu à pas mal de choses, mais en tout cas le jeu fiction me plaît. Donc voilà.
Très bien. Voilà, bah écoutez, très bien. En tout cas, je crois qu'on a fait on a encore pas mal de choses à aborder. On a d'autres chroniques. En tout cas, on invite vraiment les auditeurs à s'abonner déjà à la page Prisonneur.
Série
Prisonneur. Et puis comme ça, on va se tenir aussi au courant de la date de sortie, et puis
j'aimerais bien faire une projection déjà
À Angers,
à Angers, parce que la ville nous a beaucoup aidé déjà, donc ça serait vraiment chouette d'avoir de trouver un lieu là pour diffuser quelques épisodes, peut-être pas toute la saison, mais quelques épisodes, au moins ceux qui ont été tournés ici quoi. Ça serait chouette.
Et puis on va surveiller ça de près de notre côté.
Merci.
En tout cas, bonne chance pour la suite aussi du tournage.
Merci.
Et
bien.
Puis à très bientôt.
C'était donc la réalisatrice Ingrid. Donc un peu de musique et d'actu pour finir. Voici ton sauce au chaud, Sonia. Et on va voir si tu réussis à retrouver tes propres sauces au chaud.
Ah oui.
Et justement, il y en a un. Ouais, il y en a un qui t'a demandé beaucoup plus de travail. C'est celui dans le bar des années 20. Le site sur lequel, le site web sur lequel tu as pris tes infos disait un petit peu n'importe quoi.
C'est vrai, oh là 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 là.
Et en grand journaliste, quand tu as recoupé toutes les infos, tu t'es aperçu qu'il a fallu tout refaire. Tu t'en souviens ?
Ah oui, je me souviens, oui, oui. Tout était fait et au dernier moment, je me rends compte que tout était faux. Sur les dates de naissance, oh là là.
Eh bien, on va réécouter tout ça.
Le Soso Show.
Quand tu chantes.
Ce soir, effectivement, une fois n'est pas coutume, nous revisitons, comme disait Bruno, les années 20. Eh bien non, justement, pas 2020, mais bien 1920 avec les années folles. Alors ce soir, je vous propose un petit kikéné qui a un peu dérapé. Je suis désolée, les sites ne sont plus fiables, les sites internet, hein, je veux dire. Ils me racontent n'importe quoi, donc ce sera un petit peu découpé, j'en suis désolée.
Tu peux raconter ?
Tu peux raconter ?
Oui, les coulisses.
Alors, Soso prépare son Soso Show, donc la veille, bien sûr, au dernier moment. Bien sûr. Donc, elle m'envoie tous les sons pour que je puisse les monter, voilà. Alors, moi, comme d'habitude, j'attends, parce que généralement, ça plante à un moment donné, elle se dit, c'est plus ça, machin. Et ce matin, je ouvre mon mail et je regarde, elle me dit, oh là, je me suis planté, c'est pas le bon site, c'était pas les bonnes années, j'en ai marre.
C'est-à-dire que le site m'a indiqué plein de noms de personnes qui étaient nées entre guillemets, soi-disant 1920, donc je fais ma chronique, je prépare mes musiques, et comme je veux aller toujours un petit peu plus loin, je vérifie la période de naissance et de décès pour en dire quelque chose, et là, sur mes 6 kikénés, il y en avait 3 qui étaient complètement faux.
Ah, mais t'as peut-être demandé les années 20, ça se trouve, ils sont nés dans les années 20.
1920, c'était bien précisé, j'avais la date,
ouais,
avec l'année de naissance qui ne correspond à rien du tout. Alors, ce site-là, je peux vous dire, jamais j'y remettrai les pieds, puisque c'est ça. Donc, ce sera un petit peu hachuré ce soir, j'en suis désolée, mais on fera quand même avec.
Mais non, c'est très bien.
C'est vrai. Allez, on y va pour le kikéné de 1920.
Donc, en fait, c'est quoi ? C'est des extraits sonores, il faut essayer de trouver la personne en question.
Et il faut essayer de trouver la personnalité qui se rattache à cet indice.
Le Soso Show.
Je veux ton avis, toi qui connais bien la vie. Qu'est-ce qui se passerait si à la stupeur de l'épiscopat, le pape Pie était papa?
Mon ami, à mon avis, c'est une question impie. Mais je ne la fuirai pas. Si le pape était papa, son papa serait papy.
France d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés.
Bienvenue à Galaxy.
Alors moi,
il était minuit et demi hier soir, je n'en pouvais plus et j'ai fait ce que j'ai pu.
On est deux.
Moi, j'ai peut-être le premier. C'était un pape, le premier, mais lequel ?
Le pape François.
Alors, lequel pape ? Effectivement, il s'agit d'un pape. Mais lequel ?
Benoît XVI.
Jean-Paul II ?
Jean-Paul II ?
Caro ?
Jean-Paul II ?
Qui c'est qu'on a ?
1920.
Les invités, ce serait quel pape ?
Il
est né en 1920.
Alors, si je vous dis Carole Wojtyla, vous
me dites Jean-Paul II.
C'est Jean-Paul II, ça.
Ouais. Jean-Paul II, effectivement, est né en 1920. J'ai vérifié, c'est bien vrai.
D'accord. Non, donc, ça, c'est le premier.
Ensuite.
Le deuxième, c'est Georges Marchais.
Oui, bon, c'était facile, mais je trouvais cet extrait extraordinaire. Je retrouvais, parce que je devais être assez jeune à l'époque de Georges Marchais. Et du coup, je le trouvais assez extraordinaire. Enfin, c'est théâtral, quoi. Et cet extrait, il m'a fait rire. Je me suis dit, allez, je mets ça.
C'est
ça
vrai.
Va nous donner de l'ambiance un petit peu. Il laissait à peine la place aux personnes qui l'interviewaient de parler. Enfin, c'était vraiment très drôle. Voilà, c'était une époque.
Il nous manque.
Ensuite.
Non mais.
Il nous manque. Ah oui, pardon.
S'il nous regarde.
S'il nous regarde.
Dans le côté rampe de
Georges. Ah oui, mais c'était assez extraordinaire. Ah,
le Parti communiste est moins drôle maintenant, ça je confirme.
C'est ça, oui. Voilà. C'est moins fun.
C'est moins fun.
Ensuite, il y avait, viens nous voir, à.
Ah oui, les bronzés.
Agatha Swinga.
Mais alors, les bronzés, ça serait qui,
alors, ça
un
fait...
réalisateur peut-être,
alors,
ou
Thierry
Lhermitte. Un acteur.
Alors, ça ferait penser à quoi, effectivement, on va aller par.
920. Le Club Med, le départ du Club Med.
Le Club Med, et donc qui a créé le Club Med?
Trigano. Monsieur Med.
Effectivement, donc Med. Gilbert Trigano, donc est né en 1920, c'est lui le créateur des Club Med, des Crazy Sign, d'où a découlé ensuite les bronzés au soleil, d'accord. Ou les bronzés tout court. Et puis le dernier, alors là effectivement,
alors
je suis allée le chercher très loin, je suis désolée, mais j'étais épuisée hier soir, c'est tout ce qui m'est venu.
Les 10 commandements.
Alors, vous avez reconnu les 10 commandements.
C'est pas un pape.
Ishuraki.
Alors, 1920, les enfants. On se détache de la chanson, mais on va un petit peu plus loin. Il y a eu un film aussi.
Les 10 commandements.
C'est un des acteurs
Un des acteurs des 10 commandements.
Les 10 commandements.
Alors, qui c'est
le pharaon, est-ce que quelqu'un se souvient?
Michael Youn.
Youn Brunner, bravo. Et alors, à ma grande surprise, j'ai vu qu'il était. Sa sépulture était. Enfin, sa tombe était en France, en Touraine.
Je ne sais pas.
Eh bien, moi non plus, j'ai découvert. Peut-être que c'est une fake news, j'en sais rien.
Mais attention,
bon, écoutez, c'est un 10 sur 10, félicitations.
Ouais.
Ensuite, ce ne sera plus un kikéné, mais ce sera une info, enfin un événement,
qui s'est passé
en 1920. Voilà, quelque chose d'important. On en parle tout de suite après les indices.
Le So-So Show.
Je ne veux pas d'enfants, pas de fruits à mon arbre, à mon chêne, pas de gland, à mes joues, pas de barbe. Je ne veux pas d'enfants.
Vous pouvez bien me chambrer, mais si vos mères avaient connu la pilule, vous ne seriez pas là à me casser les pieds.
Juste au mauvais moment, une poussière d'ange t'est tombée dedans.
Le So-So Show.
Alors les questions de
un seul événement
d'enfants, de maman, ça parle de maman,
de femmes, droit des femmes.
Ouais. Alors là, on est vraiment sur justement, on parle d'enfants. Je veux pas d'enfants. On parle de la pilule.
Ah, la contraception.
On parle éventuellement de l'avortement également.
Ah, l'avortement. Ouais.
Alors donc dans
le droit
alors
des femmes.
Ça concerne les femmes effectivement, mais les pauvres là, 1920,
ouais, il n'y avait pas trop de droits.
L'après-guerre. Et c'est surtout qu'après-guerre, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, il y a un problème. Ben non, justement, c'est qu'il y a eu problème de nombreux personnes tuées lors de cette Première Guerre mondiale.
Il fallait refaire les couples.
Il fallait refaire un petit peu la natalité française. Donc effectivement, la troisième République donc a développé un arsenal répressif pour lutter justement à cette époque-là contre l'avortement et la contraception. Donc ces lois reflètent la difficile émancipation à l'époque des femmes et la faible influence des mouvements féministes après cette Première Guerre mondiale, puisqu'effectivement, eh bien, il va falloir repeupler la France. Elle a effectivement un impérieux besoin d'augmenter sa natalité. Et donc, à cette époque-là, le 31 juillet 1920, une loi nataliste donc, va réprimer la provocation à l'avortement, ainsi que la propagande anticonceptionnelle, et donc ce qui est interdit de fait, donc la publicité et la vente de moyens de contraception. Donc à l'époque, hein, c'est répressible, il y a emprisonnement, des amendes assez importantes, et pour autant, on se rend compte que du coup, le taux de natalité ne va pas augmenter pour autant, malgré ces différentes répressions. Et ce qu'on va retrouver également à cette époque-là...
Il y a Manu qui veut dire quelque chose.
Non, mais je voudrais dire que vu l'efficacité des traitements, de toute façon, on peut douter de la contraception à cette époque-là.
Enfin, c'est possible.
Je veux dire, raisonnablement, vu que les médicaments sont pris avec du vin, oui. Que c'est des élixirs de machin, la contraception, moi, je n'aurais pas cru une seconde.
Je t'assure, tout ce qui est à base de vin, ça marche.
Voilà.
Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'hommes non plus.
Oui,
mais il y avait beaucoup moins d'hommes.
Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins d'hommes.
Oui,
mais bon.
Mais les femmes,
elles servaient qu'à ça. Les femmes, elles servaient qu'à ça, dit Caro.
Ah, oui. C'est-à-dire.
Les conditions des femmes, elles étaient terribles avant la guerre et après la guerre. Donc, de toute façon, elles étaient vouées à faire des enfants.
Oui, mais justement, parce que c'était compliqué, l'avortement reste quand même assez important malgré toutes ces répressions. Et du coup, c'est ce qu'ils évoquent, c'est que du coup, sur cette période, malgré toute cette répression, le taux de natalité ne va pas augmenter pour autant. Et il va y avoir également, ils parlent des théories anglo-saxonnes sur le contrôle des naissances, puisqu'on ne peut pas prendre la pilule. Effectivement, peut-être que c'était déjà pas exceptionnel, mais il y a également la méthode... Gino.
oui, oui, avec la température.
Ouais. Voilà.
Ça existe toujours, ça.
Ça existe toujours. Ça existe toujours, mais je connaissais pas le terme. Ah. Donc voilà, excusez-moi, ouais. Méthode Augino, on en apprend tous les jours, effectivement, même pour une femme. Oui.
Parce qu'en soi, un homme peut faire 9 enfants d'un coup, contrairement à une femme qui peut pas porter 9 enfants d'un coup.
Donc en tout cas, voilà, exactement. À cette époque-là, ça s'est développé. Et puis ce qu'il faut dire quand même après, au-delà de ça, c'est voilà, mais oui, c'est pas tout à fait. Voilà. Donc il faudra attendre en tout cas les lois Newers de 67, hein, décembre 67, qui autorise l'usage des contraceptifs. Donc c'est, voilà. Et ensuite la loi avec Simone Veil en 75, hein, qui va rendre légitime en tout cas la dépénalisation de l'avortement. Voilà notre histoire à nous les femmes en 1920.
Le So-So Show.
C'est des prénoms.
Et oui, les questions de prénoms.
C'est des questions de prénoms, il n'y a que des prénoms.
C'est quoi ? C'est le palmarès des prénoms 2019 qui est sorti ?
C'est ça, ouais.
Non.
Ouais.
C'est pas vrai.
Et puis, bah, j'avais envie année, aussi de faire une petite chronique pour Pauline et Jérémy. Oh, on va les aider.
Ah, c'est gentil. Vrai.
Vous êtes d'accord ? Alors,
les anciens chroniqueurs.
Le petit Robert, A-I-R-E. Hein, donc lance voilà son folklore des prénoms inventés. Alors il faut savoir qu'il y a environ 750 000 naissances par an en France, et actuellement et prochainement, voilà, Jérémy et Pauline feront partie de ces parents qui doivent donner eux aussi un prénom à leur enfant nouveau-né. Alors cette chronique leur est dédiée. En 2019, on retrouve toujours dans le peloton de tête Camille, Louise, Léa ou bien encore Louis, Gabriel et Léo.
Ah oui, toujours.
Toujours. Et pour autant, malgré ça, bon nombre de parents préfèrent désormais sortir des sentiers battus pour donner à leur progéniture un nom créé sur mesure, rien que pour eux. Alors, amoureux de la belle orthographe, s'abstenir. Alors, ces prénoms rares sont en général formés avec quelques astuces, oscillant entre variations graphiques, prénoms exotiques, auxquels on change une lettre ou bien une combinaison de deux prénoms, ajout abondant de consonnes et également de voyelles. Alors, la loi est claire quand même, hein, elle offre la possibilité de choisir un nom original. Pour autant, dans la mesure, hein, il ne faut pas que ça porte préjudice à l'enfant. On est d'accord. Donc, l'officier d'état civil est tenu d'inscrire le prénom choisi par les parents, mais quand même d'alerter éventuellement le procureur de la République s'il y a litige. Genre, Oussama Ben Laden, c'est niette. Clitorine ou bien même vagina, on oublie aussi. Hein, et le plus original, mais pas facile à prononcer, BRF 11116 a été retoqué.
Ah, ah oui, ça veut dire qu'il a été présenté quand même.
De même, Babord et Tribord, ou bien Fish and Chips pour des jumeaux, on oublie. Hein, de même pour Adolf Hitler, bon, tout ça, c'est interdit.
D'accord.
Cela étant, ça ne veut pas dire que certains n'ont pas affublé leurs gosses, hein, de prénoms parfaitement abstrus, sous couvert d'originalité et de désir de donner un cadeau à son petit, bien sûr, être unique, un prénom unique. Ainsi, Tuba, Bruce Lee, merci Mireille, Al Capone, A-L-K-A-P-O-N-E.
Attends, merci Mireille, il y en a un seul mot pour
non,
prénom.
Non, merci plus loin Mireille, ça marche.
Ah, ah ouais. Possible,
voilà, bah, y a bien un prénom.
Et merci, ça, c'est pas retoqué, ça, on est d'accord.
Non, hein. Barack Obama, Rolls Romeo, Lola Poupoun, Dior Nyanya, Cacharel, Louboutin, Maybelline, Bogos, B-O-G-H-O-2-S.
Oh, le pauvre.
Youyou. Et oui aussi, Jésunette, Jean-Claude, c'est L-O-D-E,
ouais.
Zach, plus loin, Harry,
oh,
Kill,
non.
Comme tu es, Kylian,
c'est un fake.
Kylian, je continue, je m'arrête pas.
On dirait des marques de produits.
Bref, on transforme aussi un prénom connu en l'orthographiant de manière originale, genre Ophélie. A-U-P-H, voilà. Robert, A-I-R-E. Marie-Jeanne, Anthony, A-H-N-T-O-N-I. Non mais que sais-je, hein, tous les coups sont permis en la matière, sachant qu'après, les gnomes y passeront leur vie à devoir épeler leur prénom.
C'est clair.
Voilà, c'est cool sympa.
Pour un moment, c'est pas Raphaël, ça va quand même.
Ça va, la psychologie a de bons jours devant elle, oui. Je trouve.
Mais semble-t-il, la tendance, parce qu'il y a toujours une tendance, ça va être de rajouter des K et des Grecs un petit peu partout. Hein, les mamounes, elles se sont lâchées. Donc Camille avec un K, Claude, K-L-A-U-D-E, Stevie, S-T-2, un Y, un V, encore un Y. Enfin bon, Voilà, donc aujourd'hui le prénom s'impose quand même partout, hein, et le nom de famille a cessé de faire partie des interactions entre nous, donc c'est quand même le prénom qui prime, et les parents plus ou moins conscients ne cherchent donc pas l'originalité pour elles-mêmes, mais à faire en sorte que leur enfant dispose d'une identification personnel, hein, qui ne soit pas partagé par un trop grand nombre d'autres enfants. Donc Jérémy et Pauline, hein, on compte sur vous.
Ouais. Choisissez bien. Les parents, pas penser au surnom, tout simplement.
voilà. Donc effectivement, c'était pour vous, Jérémy et Pauline, parce qu'on pense à vous, c'est pour
qu'est-ce
bientôt.
Qu'est-ce qu'elle est mignonne, cette Sonia, quand même. Mmh.
Hein, voilà.
C'est déjà la fin de l'émission. Merci Sonia de m'avoir accompagnée.
Eh ben merci Bruno.
Est-ce que tu as des idées d'actu pour tes socio-shows de la rentrée?
Si, peut-être ce qu'il faut pointer, c'est la réouverture de la Tour Eiffel, du musée du Louvre. Voilà, pour les vacanciers, ceux qui ont envie de découvrir du coup ces structures, quand même le musée d'Orsay aussi, avec beaucoup moins de touristes et autres, bah, c'est maintenant qu'il faut y aller. Il faut aller se balader là où il n'y a personne.
Ok, bah ce sera ton conseil pour les vacances alors.
Voilà, c'est ça.
Allez, en attendant, bien, nous on vous souhaite bonnes vacances à tous. Et vous pouvez nous retrouver sur Deezer, Spotify, radio-g.fr et tendanceimpair.fr pour les podcasts. Et bien sûr, dans 15 jours, avec une émission très spéciale, puisqu'elle sera autour des sons. On écoutera en effet quelques extraits de la nuit de l'ASMR. T'en souviens, Sonia?
Ah oui, je me souviens d'une belle expérience et de plein de frissons auditifs.
Et aussi de la musique classique que tu nous avais présentée, tu t'en
aussi,
souviens?
Oui, tout à fait, oui, ça je me souviens très bien.
Eh bien, on verra ça dans 15 jours. Allez, pour ce soir, c'est terminé. Alors que le soleil soit avec vous et avec de l'esprit, c'était Tendance à me plaire.
FM.